carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Dans une de ses communications à l'Académie des Beaux-Arts, communication intitulée « Louis Levaux au Collège Mazarin, Rome à Paris, point d'interrogation », Jean-Pierre Bablon, de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, disait, je cite, « L'ancien Collège des Quatre Nations, devenu le palais de l'Institut de France par la grâce de Napoléon, est certainement l'un des plus beaux sites urbains connus. » Et je cite encore, « Il faut bien saisir la profonde originalité de l'œuvre de Louis Levaux, cet architecte visionnaire. » Jean-Pierre Bablon, bonjour.
Bonjour.
Avant d'évoquer la construction du collège et des idées géniales de son architecte, pourquoi l'ancien collège des Quatre Nations? Pourquoi le collège Mazarin? Pourquoi tous ces noms?
Eh bien, parce que c'est une volonté exprimée par le cardinal Mazarin qui voulait que les jeunes gens issus des régions qui avaient été réunies à la France par les deux traités qu'il avait pu manager au cours du long conflit qui opposait la France et l'Empire d'une part, l'Empire germanique, et la France et l'Espagne d'autre part, c'est-à-dire les traités de Westphalie de 1648, le traité des Pyrénées de 1659, qui est essentiellement le grand succès personnel de Mazarin. Donc il voulait que les jeunes gens qui étaient nés dans les régions qui étaient annexées au royaume de France puissent avoir une formation comme tous ceux qui sortaient des vieilles provinces de France.
Alors, quelles étaient ces quatre nations?
Eh bien, ces quatre nations, c'était d'une part la Flandre et l'Artois, d'autre part l'Alsace, une partie de l'Alsace, troisièmement le Roussillon, le Conflent et la Cerdagne, et quatrièmement, petite enclave italienne dans les montagnes, Pignerol, auquel on avait ajouté les États pontificaux, ce qui était intéressant parce que c'était aussi une façon de savoir si les jeunes issus des États pontificaux pourraient suivre une carrière un petit peu comme celle de Mazarin. Donc, ces quatre nations. Et ce terme de nation reprend un usage qui était bien établi dans l'université française et à la Sorbonne, si l'on peut dire, c'est que les étudiants étaient réunis en fonction de leur pays d'origine, mais également de leur langue d'origine, en nations. Et on connaissait la nation de France, la nation d'Angleterre, la nation de Normandie et la nation de Picardie. Donc ce terme de nation était bien implanté et quatre nouvelles nations s'ajoutaient ainsi aux jeunes gens qui allaient être formés sur la rive gauche par la volonté de Mazarin.
Est-ce qu'il n'avait pas un peu pris son idée de Richelieu, cette fondation, son tombeau, son collège, la Sorbonne?
Oui, bien sûr. Il s'inscrivait dans la suite de Richelieu. Mais Richelieu n'avait pas réuni beaucoup de régions à la France, n'est-ce pas? Alors que Mazarin était très fier d'avoir pu faire cela, d'autre part, et apaiser le conflit extérieur et intérieur qui bouleversait la France, je repense notamment à la Fronde. Donc il s'établissait dans les dernières années de sa vie, presque les derniers mois, comme le grand pacificateur et celui qui avait été souvent honni des milieux politiques et de la cour pendant fort longtemps. Était devenu quelqu'un qui s'était imposé par son énergie, par sa puissance sur le jeune roi Louis XIV, et ajoutons aussi sur sa puissance financière. Donc c'était un homme immensément riche. Il possédait à sa mort entre 35 et 40 millions de livres. Il avait voulu donner au roi cette fortune. Le roi avait refusé, parce que le roi estimait peut-être in petto que ceci n'avait pas été gagné d'une façon absolument limpide. Et il avait néanmoins aussi proposé des œuvres d'art. Et là, le roi a accepté. Et une grande part des collections anciennes du Louvre proviennent des tableaux, notamment les tableaux et les antiques de Mazarin.
On parlait de cet argent, on parlait de cette renommée. Mais Mazarin avait trouvé une bonne idée pour se faire aussi pardonner et accepter. C'était le fait que dans son collège des Quatre Nations, il y aurait une bibliothèque, sa bibliothèque, ouverte 3 ou 4 fois par semaine à des publics lettrés. Est-ce que Richelieu avait fait la même chose?
Non, Richelieu n'avait pas fait la même chose. Mazarin, dans son palais, qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale, avait développé une immense bibliothèque. Il aimait énormément les livres. Il avait une bibliothèque d'une très grande richesse. Il avait voulu que cette bibliothèque personnelle fut donc installé dans le collège, pour, à l'usage bien sûr des jeunes gens qui fréquenteraient le collège, mais également tous les amateurs, pour une, encore une fois, des fonds extrêmement riches, dont témoigne encore la richesse de la bibliothèque Mazarine. J'ajoute aussi un point, c'est qu'il est intéressant de voir dans son testament à qui il destinait ce collège, n'est-ce pas ? Bon, bien évidemment, ça n'était pas, excusez-moi le terme, c'était pas les enfants du peuple, n'est-ce pas, qu'on allait recevoir là. On allait recevoir des gens de la bourgeoisie riche et des nobles. Il y a même une indication en disant ce sera surtout de jeunes nobles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il voit dans ce collège un instrument de pacification pour une aristocratie revendicative qui avait fait des siennes pendant la Fronde et auquel il importait de donner d'abord une éducation, ce que ces jeunes hommes n'avaient quelquefois pas, et puis aussi un lien d'appartenance à la nation française qui allait passer dans les cours des professeurs qui seraient embauchés pour le Collège des Quatre Nations.
Ça prouve bien que c'était un homme d'État parce qu'il voyait loin.
Tout à fait.
Maintenant, le choix de l'architecte, comment s'y est-il pris ? Est-ce que c'est lui finalement ? Et au départ, on a vu que c'était lui qui voulait le veau, mais comme il n'était plus là, parce qu'en fait, le palais a été construit après le décès de Mazarin.
Eh bien, Mazarin s'était inquiété de savoir qui pourrait bâtir. Et il avait gardé des liens importants avec l'Italie. Il avait donc des émissaires en Italie qui étaient chargés de trouver un architecte qui pourrait venir ici et qui exécuterait, du vivant même de Mazarin, les dessins qu'il avait en tête. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y avait un grand Italien qui se promenait à ce moment-là entre l'Italie et la France, c'était Bernin, n'est-ce pas ? Donc Bernini avait été sollicité par le roi et le cardinal pour juger un petit peu de la façon dont pouvait traiter l'agrandissement, le quadruplement du palais du Louvre, et notamment le traitement de la grande façade orientale. Et vous savez qu'après des critiques qui ont été faites, Bernin a proposé des idées qui ont été refusées, les Français se sont rebiffés, finalement il est parti, et on a décidé de réunir une sorte de collège de grands esprits, où était Perrault, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui la colonnade de Perrault, qui est une colonnade qui, bien évidemment, s'inspire de la grande architecture italienne à l'antique, mais qui était tout de même un dessin d'un comité de Français. Alors que, curieusement, Levaux, qui faisait d'ailleurs partie de ce comité, avait commencé à édifier sur la face sud de ces grandes cours carrées, donc devant la Seine, une aile sommée d'un grand pavillon, comme le pavillon de l'horloge que nous voyons encore dans la cour carrée. C'est donc encore un thème à la française avec deux ailes et un pavillon au milieu, rappelant un petit peu les grands châteaux qu'il avait construits, et puis notamment le plus grand, le château de Vaux-le-Vicomte.
Oui, parce qu'il était parti de Vaux-le-Vicomte, il avait donc été déjà choisi par
Fouquet, et le riche.
Et alors finalement, pourquoi est-il aussi original ? Pourquoi est-ce que classicisme et baroque, chez lui, ça s'est arrangé d'une manière assez étonnante ?
C'est tout à fait extraordinaire. L'histoire de ce monument est d'exemple justement entre cette hésitation entre une architecture à l'italienne, une architecture française, ou bien la création d'une architecture française qui endosserait certaines lignes des effets baroques de l'architecture italienne et notamment de l'architecture romaine. Alors c'est finalement, n'ayant pas trouvé d'architecte italien, il s'en est remis à Colbert, qui était son homme de confiance, et finalement Colbert a fait choix de Levaux. On connaissait beaucoup Levaux à Paris, n'est-ce pas ? Donc il travaillait sur le chantier du Louvre. Il s'était fait connaître aussi à la pointe de l'île Saint-Louis par un hôtel qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, qui est l'hôtel Lambert, qui était un hôtel où Levaux avait démontré sa faculté d'imagination pour faire une architecture symétrique tout en étant dissymétrique et donnant l'impression d'elle semblable de part et d'autre, alors que ça n'était pas le cas pour l'hôtel Lambert, qui n'avait qu'une petite aile sur la cour du côté ouest et dont le côté est, au contraire, se dégageait sur une grande façade sur un jardin avec la grande galerie, n'est-ce pas ? Donc une aptitude à faire ce qu'il a fait d'une façon étonnante à l'Institut, avec une espèce de simulacre de bâtiments qui se répondent, alors qu'en réalité, lorsque vous voyez le plan, vous voyez qu'il y a toute une série d'inventions qui permettent de laisser croire à cette régularité du plan, alors qu'en réalité, le plan évolue en fonction de l'ancienne topographie de la ville de Paris, déterminée par le rempart de Philippe Auguste, qui est le point essentiel.
Oui, il y avait donc des contraintes énormes.
Énormes.
Des contraintes de soubassement.
Soubassement.
Des contraintes d'implantation, donc de l'ancienne tour de Nesle qu'il a fallu dégager.
Voilà.
Mais magiquement, on n'a pas l'impression que c'était un coup de dé qui a été lancé.
Oui.
Et tout ça, ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas. On était en bord de Seine aussi.
Hein, oui. Bon.
Imaginez qu'il n'y avait pas de quai, n'est-ce pas ? Puis on se trouvait en face du Louvre, en face des appartements royaux du Louvre. Donc c'était un site extraordinaire et en même temps qui avait cette marque de l'enceinte de Philippe Auguste extrêmement forte. Donc il y avait tout un Moyen-Âge avec une grande tour en face des appartements royaux, n'est-ce pas ? Donc pouvait-on véritablement aller à l'encontre de cette topographie qui était si contraignante ?
Mais il n'a pas hésité.
Il n'a pas hésité, enfin on a hésité un certain temps. On a hésité un certain temps. On a hésité aussi à mettre le Collège des Quatre-Nations à cet endroit, n'est-ce pas ? On s'est dit, et Colbert et Levaux s'étaient dit, ça serait intéressant, face au Louvre, dans la description que je viens de vous faire de ce paysage extraordinaire, de mettre une cour rectangulaire avec des bâtiments symétriques de chaque côté. Et dans le premier temps, on a pensé que ce serait une caserne, une espèce de cour des offices militaires qui serait en face du Louvre. Et on avait aussi pensé réunir le Louvre à cette place perpendiculaire par un pont qu'on aurait appelé le pont de la paix, pour célébrer la paix des Pyrénées.
Oui, on voit qu'il y a aussi de l'utopie.
Il y a de l'utopie, voilà. Et puis on s'est rendu compte que si on gardait le rempart, la place filait en avant, n'est-ce pas ? Donc il fallait la bâtir en partie sur le cours de la Seine. Les échevins de Paris se sont... On dit, mais alors, ça va gêner le cours de la Seine et la navigation, et puis ce sont des fondations qui ne tiendront pas. Donc, on a réfléchi assez longtemps. Et finalement, c'est Colbert qui a dit, mais il s'est présenté devant les descendants de Mazarin, leur disant, on a bien réfléchi. Je crois que finalement, à la place de cette place des casernes, si l'on peut dire, nous allons bâtir le collège. Mais ce collège, il sera conçu comme un édifice... avec un axe extrêmement fort, dans l'axe du Louvre, qui, je vous le rappelle, présentait encore un pavillon à dôme sur l'aile du sud, alors que la construction de la colonnade du Perrault a engagé après ça une modification très profonde de cette façade sud du Louvre, de Levaux, n'est-ce pas, qui, elle, est une façade, comme nous pouvons le voir par la fenêtre ici, qui est une façade à l'antique, avec un soubassement, des... pilastres cannelés et puis un toit plat caché par une balustrade. Donc tout à fait le thème classique à l'antique.
Et alors finalement, c'est relié au Louvre quand même. Ça, c'est une petite parenthèse. Le pont des Arts est arrivé à quel moment ?
Le pont des Arts est arrivé très tard. très tard. C'est très intéressant d'ailleurs de penser que finalement, le pont de la paix, on s'est dit, est-ce que ça va coûter très cher ? Nous avons le pont neuf qui est tout près. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un pont de plus ? Et c'est donc Napoléon qui, lorsqu'il a décidé d'implanter l'Institut des Arts, n'est-ce pas, c'est-à-dire les anciennes académies royales qui jusque-là s'étaient réunies au Salon du Louvre, la salle des Cariatides notamment, avant d'être aboli par la Convention, lorsqu'il a ressuscité l'Institut, Napoléon a compris qu'il y avait là un thème institutionnel extraordinairement fort pour l'Empire français. Et il s'est dit, d'ailleurs, c'était déjà réinscrit dans la constitution du directoire, mais Napoléon s'est engagé dans cette voie en comprenant que s'il avait avec lui les savants, ce serait une marche en avant pour conquérir l'opinion française. Donc, il a donc créé l'Institut avec des sections qui reprendront plus tard à nouveau leur vieux nom d'académie. Et puis, il s'est posé la question, où est-ce que je vais les mettre ? Alors, tout le monde autour de lui lui a fait des propositions. Et puis, finalement... lui a dit, vous savez, en face du Louvre, il y a tout de même un monument extraordinaire qui est complètement à l'abandon parce que ce Collège des Quatre Nations, on en a fait une prison, des magasins de céréales, etc. Il n'y a plus rien par là, mais le monument est toujours là. Donc il faut mettre l'Institut là. Mais si vous mettez l'Institut là, il faut qu'il y ait une réunion entre le grand œuvre de Napoléon dans le Louvre qui était la création du Muséum central des arts, n'est-ce pas, avec des chefs-d'œuvre venu de France et d'ailleurs, et puis en face, la maison de ceux qui discuteraient sur aussi bien les arts que sur l'avenir politique, les réflexions scientifiques et littéraires. Donc Napoléon a donné les ordres pour aménager la salle des séances de l'Institut sous la coupole du Collège Mazarin. Il s'est posé la question de réunir les deux. Et un homme du métal, artilleur, qui avait compris ce que c'était que les pontons qu'on jetait pour les grandes batailles dans les différentes campagnes, il s'est dit, mais au fond, on va faire un pont en métal. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à ça en disant, mais non, on ne va pas mettre de la ferraille dans ce site. Et si, et comme c'était beaucoup plus léger, ça permettait de ne pas charger le paysage de la Seine entre les deux ponts de pierre qui sont toujours ici, le pont Royal et le pont Neuf. Donc les ingénieurs ont été chargés de proposer des plans que Napoléon, avec son souci d'efficacité, de curiosité scientifique, a regardé de très près. Et finalement, on a conçu ce pont, qui est une, en réalité, ce n'est pas un pont, c'est une passerelle. Donc on l'appelait le pont des arts, mais c'est la passerelle des arts. Et puis, bon, peut-être ne savez-vous pas que pendant longtemps, si on passait normalement les ponts de pierre, n'est-ce pas, ben la passerelle des arts, il fallait payer son écho pour entrer.
Ah oui, il y avait un octroi.
Donc il y avait un octroi. Au debout, n'est-ce pas, on payait un petit sou, là. On ne payait pas un cadenas, comme les cadenas
oui,
que l'on voit aujourd'hui
accrochés. Myriades.
Mais on payait son écho à l'entrée et à la sortie, de façon à pouvoir, bon, d'abord à réduire un petit peu la circulation. C'était une mesure de sage régulation des foules, et puis aussi gagner un petit peu d'argent.
Alors, pour revenir à notre palais de l'Institut, parlons un peu de la chapelle dans laquelle il y a le tombeau de Mazarin. Qui l'a fait et pourquoi est-il au fond et non pas au centre Comment ça est-ce agencé tout ça?
Voilà, la chapelle de l'Institut épouse, comme je vous disais pour commencer, un plan tout à fait extraordinaire. Nous imaginons de loin avec ce dôme, c'est pas le premier dôme italien à Paris, il y en avait quelques-uns avant, l'église de l'Assomption, mais enfin c'était un de ceux que l'on voyait le plus en arrivant. Et ce dôme est donc un dôme cylindrique qui surmonte un édifice religieux. Édifice religieux de peu de longueur et qui devait être traité comme une chapelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La chapelle d'un collège, ça veut dire, bon, en principe, une nef, les côtés d'un transept et un chœur. Tout ça, il fallait imaginer cette disposition en croix, si on peut dire, à l'intérieur de la circonférence dessinée par le dôme. Donc, on a beaucoup réfléchi et Levaux a eu cette idée extraordinaire d'avoir un effet totalement d'illusion, puisque lorsqu'on pénètre de l'extérieur, vous voyez que le dôme est cylindrique, percé de grandes fenêtres. De l'intérieur, vous voyez que le dôme qui s'élève au-dessus de vous a une forme ovale et non pas cylindrique, que la lumière vient donc d'en haut. Mais si vous dessinez un ovale dans un cylindre, vous imaginez que les murs extérieurs n'ont pas tous la même épaisseur. Lorsque vous êtes donc dans la coupole, il faut bien regarder les murs. Il faut s'apercevoir que sur un axe, les fenêtres sont effectivement au ras de percée dans le mur. Et sur un autre axe, les fenêtres sont doubles, pas, parce qu'il y a toute une épaisseur de mur à traverser. Bon, c'est une illusion extraordinaire qu'on se plaît à regarder chaque fois qu'on est là. Donc il n'était pas question de mettre le tombeau de Mazarin au fond, puisque c'était le cœur. Bon, il y avait un autel avec un grand tableau dont on connaît encore l'existence, qui est dans un musée de province aujourd'hui. Et donc le tombeau de Mazarin devait être sur un côté, c'est le côté où nous le voyons aujourd'hui. Ce tombeau est assez relativement tardif, il a été commandé par Louvois, Colbert avait déjà disparu, c'est Louvois qui en 1689 a demandé à Coisevaux de construire ce tombeau étonnant. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, le tombeau de Richelieu ne sera terminé qu'après, n'est-ce pas, et non pas avant. Et les deux monuments, vous voyez ce tombeau de Richelieu dans la chapelle de la Sorbonne, sont d'un esprit totalement, totalement différent. Pour le tombeau de Mazarin, vous voyez un sarcophage à l'ancienne, n'est-ce pas, avec les statues des vertus, vertus principales du grand cardinal qui sont sur les côtés. Il est agenouillé et il est, je dirais, encore vivant, actif, et toutes les vertus qui l'entourent prouvent qu'il a encore toute sa tête, si l'on peut dire. Au contraire, le tombeau de Richelieu, vous savez, d'une tout à fait différent. Richelieu est en train de mourir, n'est-ce pas? Il s'étend, il s'allonge, n'est-ce pas? Et on lui montre le ciel. Et voilà, c'est donc une pensée tout à fait différente. Il y a le ministre qui va toujours gouverner la terre, et puis l'autre cardinal qui, lui, pense à ses fins dernières.
Il faut dire que Richelieu était cardinal comme Mazarin, mais oui, véritable cardinal.
Exactement.
Alors que Mazarin était surtout un homme du pape.
Oui, oui, tout à fait, un homme du pape, mais qui n'avait pas reçu les ordres.
Voilà. C'est ça, il ne pouvait pas avoir la même prétention cardinaliste.
Cardinaliste. Alors, j'insiste aussi sur une chose, c'est que les armoiries de Mazarin, c'était un faisceau de licteurs qu'il tenait de sa famille romaine, n'est-ce pas? Et ces faisceaux de licteurs, nous le voyons partout, encore aujourd'hui, sur les murs de l'Institut. C'est devenu un emblème de l'Institut que le faisceau de licteurs de la famille Mazarini.
Oui, mais on dit d'ailleurs, à Rome, on dit que c'est des faisceaux qui proviennent des emblèmes étrusques.
Oui.
Donc on voit à quel point
Absolument. Nous
sommes Absolument. Toujours en liaison avec toutes ces cultures italiennes.
Tout à fait.
Finalement, on n'a pas donné les dates précises de la construction de ce palais, parce que je crois que ça a été assez vite pour une période.
Le projet a été approuvé par Colbert en 1662, donc un an après la mort de Mazarin. Et les travaux ont été poursuivis jusqu'en 1688. Et c'est l'année d'après que le tombeau sera commandé en 1689 par le roi Quaso. Donc les travaux ont commencé assez longtemps. Et puis les jeunes gens se sont installés après la fin des travaux dans ces bâtiments que l'on imagine lorsqu'on arrive sur la place de l'Institut s'établir derrière. Et en réalité, ils partent en biais, une grande oblique qui est sur le côté gauche. Oblique parce qu'elle longe le rempart de Philippe Auguste. Et c'est donc trois cours successives qui s'établissent. Une cour d'honneur, qui a là aussi un caractère tout à fait de ressemblance des façades les unes aux autres, une grande symétrie. Puis une arcade. Et puis la cour des élèves, cette grande cour qui était le plus grand préau de lycéens qui existait à Paris. Le plus grand, c'était plus grand encore que celui du Collège de Clermont dans le quartier latin, et vous aviez sur le côté ce grand bâtiment qui existe toujours, où les élèves avaient leur salle de cours et la possibilité de se restaurer au rez-de-chaussée. Ils avaient leur chambre en dortoir dans les deux étages au-dessus. Puis après ça, vous aviez la cour des cuisines qui existe toujours, puis le long de la cour des cuisines, une cour jardin, n'est-ce pas, où ils pouvaient s'ébattre parce qu'il fallait bien qu'ils courent après des ballons, etc. Et je rappelle que c'est cette cour qui est ce qu'on appelle la parcelle de l'an 4, qui a été cédée à la monnaie, l'administration de la monnaie ultérieurement, mais cédée simplement, mise à disposition. Et M. le chancelier Gabriel de Broglie est aujourd'hui à la fin de la négociation qu'il a engagée avec la monnaie pour récupérer cette parcelle de l'an 4 et construire le grand auditorium qui donnera enfin un nombre de places suffisant pour les plus grandes manifestations de l'Institut.
Eh bien, ça veut dire que le palais de l'Institut, non seulement est entretenu, mais il est embelli et il se modernise.
Tout à fait. Je voudrais rappeler un épisode auquel nous avons échappé. Vous voyez la rue de Rennes, qui est cette grande rue dans l'axe de la gare Montparnasse. Et dans les tracés haussmanniens...
Ça devait aller tout droit jusqu'à la Seine.
Il fallait aller tout droit jusqu'à la Seine. Et la rue de Rennes a des numéros qui commencent, je ne sais plus, au 60, etc., à la hauteur de Saint-Germain-des-Prés. Et normalement, ça devait faire démolir entièrement la rue Bonaparte et arriver jusqu'à la Seine. Arrivé jusqu'à la Seine, les grands urbanistes de Paris avaient prévu un pont en oblique qui traversait la Seine, n'est-ce pas, devant la pointe de l'île de la Cité, et qui permettait de joindre les autres gares du Nord, n'est-ce pas, puisque c'était de l'Est et du Nord. Et alors le palais aurait sauté, ou il aurait été amputé très fortement. Alors il y a eu des projets pour ça, on s'est demandé si on n'allait pas construire un petit auditorium ailleurs, etc. Et puis tout s'est terminé avec une décision définitive, en 1959, si vous voulez, où vraiment les académiciens ont dit non, 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 nous ne demanderons pas la coupole, non, nous voulons continuer à siéger sous la coupole, et il n'y a pas de règle d'urbanisme qui puisse aller à l'encontre de notre volonté. Et la rue de Rennes n'a pas été poursuivie.
Donc maintenant, c'est protégé.
Protégé.
Très bien, vous êtes très bien battus, messieurs les académiciens. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bablon.